Bien. Alors, je pense que le plan vous apparaît par certains de ses aspects comme relativement énigmatique. Il y a certaines affirmations qu'il faudra élucider chemin faisant. Par exemple, le 4.1, développement midrashique, c'est quand même pas. C'est un peu codé hein, comme titre. C'est pas pour être pédant, mais c'est parce que ça permet de dire très rapidement des choses qui, lorsqu'on les explique, prennent beaucoup de temps. Donc, quand on y viendra, ben, je prendrai vous un peu de temps pour l'expliquer. Voilà. Et puis après, le titre vous paraîtra limpide. Voilà, donc, ça n'était pas pour brouiller les pistes, mais c'était pour être concis que je me suis permis de mettre quelques gros mots comme archétype, déictique, midrashique, ligne d'accomplissement. C'est quand même pas. C'est un peu codé. Ce qu'il faut vous retenir à la vue de ce plan, c'est que nous avons le petit 1 et le petit 5 qui ne sont pas des excursus, mais qui ne s'inscrivent pas dans un fil rouge, dans un fil démonstratif. Le petit 1, c'est tout simplement essayer de définir l'objet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire le dogme. Je vais vous montrer qu'il y a plusieurs définitions du dogme. On va tirer quelques conséquences de ces définitions du dogme, notamment de la troisième, qui est la plus récente. Et puis le 5, ça va être d'aborder in fine, seulement in fine, la question du développement du dogme. On le fera à travers des exemples, parce que c'est beaucoup plus facile. Et ce sera une sorte de. Ce sera la conclusion en réalité. Voilà. Ce sera la mise en œuvre de ce que le parcours en son centre, là, 2, 3, 4, nous aura permis de comprendre et de mieux cerner. Alors 2, 3, 4, en revanche, s'inscrivent dans un fil démonstratif. Il s'agit de répondre précisément à la question qui vient d'être énoncée par Cyril, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il y ait cet objet étrange qu'est le dogme? Voilà, histoire de problématiser un tout petit peu comme si c'était nécessaire. Je ne pense pas que ça le soit, mais parce que Cyril l'a déjà fait, et puis c'est relativement évident, mais comment se fait-il qu'il y ait un groupe de personnes qui se sentent habilitées à produire des textes qui ne sont pas des textes que l'on qualifie de révélés et qui pourtant exercent une contrainte sur le registre de la foi, dans le registre de la foi. Voilà, le dogme, ce sont des vérités à croire, et ce sont des vérités à croire qui sont extra-textuelles par rapport à la Bible. D'accord? Alors, c'est un peu curieux quand même. Et en plus de ça, ces textes, ces productions, les dogmes, ce sont des textes, hein. Donc ces productions de textes ont lieu à travers un double processus, soit à travers un individu qui est le pape, soit à travers un groupe d'individus que sont les évêques réunis en concile, et donc il y a des procédures. Voilà. Et dans le cas du pape, on peut soupçonner une possible dérive autoritariste, à savoir un individu qui définit comme vérité à croire ce qui lui plaît, et du côté du groupe d'humains rassemblés, à savoir les évêques en concile, on peut soupçonner une dérive parlementariste où la vérité se décrète à coup de vote. Voilà. C'est un tout petit peu curieux comme objet. Voilà. Et donc le 2, 3, 4 essaie de montrer les sources, l'origine de cet objet, et évidemment, comme toujours, lorsqu'on revient aux sources et aux origines, il y a évidemment une pointe critique aussi. C'est-à-dire que les dérives que je viens de pointer ne sont pas fantasmées, elles sont réelles. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Alors, tout de suite, le 1, les définitions du dogme. Je vous ai mis la. Alors, en fait, nous n'avons de définition du dogme que de manière très récente. Avant de vous donner peut-être cette définition, d'ailleurs, avant de la lire, je peux peut-être vous dire que le mot se trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, sous des acceptions assez diverses. Alors, dogma, c'est un mot qui sonne grec, mais qui a été repris dans le latin tel quel. Donc, il ne se décline pas de la même manière dans les deux langues, mais c'est la même racine. En fait, il vient du grec et les latins l'ont adopté. Dogma, dans le monde grec, ça veut, de manière générale, ça désigne deux ordres d'idées, l'ordre de les opinions, d'un côté, et de l'autre côté, les décrets. Ce qui a force de loi parce que cela a été décrété par une autorité légitime, dans n'importe quel domaine. Hein. Là, on n'est pas dans le domaine religieux, spécifiquement, on est dans le domaine profane, voilà, dans l'usage du mot. Ce mot est passé dans le latin tel quel, avec encore une fois une manière de déclinaison, une manière d'être décliné différente. Vous trouvez le mot grec dogma dans la version grecque de l'Ancien Testament que l'on appelle la Septante, et qui est une traduction juive de l'Ancien Testament, de l'hébreu vers le grec. Vous trouvez aussi ce mot dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, tel que nous le possédons, a été rédigé en grec. Il y a une petite prudence parce que beaucoup de spécialistes pensent qu'a existé une version araméenne de Matthieu, mais on ne l'a pas. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est un Nouveau Testament exclusivement rédigé en grec. Et vous trouvez là aussi le mot « dogma ». Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, vous trouvez ce mot essentiellement avec le sens du décret, de ce qui a été écrit et qui donc oblige, parce que ça a été, en ayant été écrit, cela a été promulgué. Il y a certaines occurrences de l'usage de ce mot dans l'Ancien Testament qui sont tout à fait chargées théologiquement. Par exemple, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 27, la référence, si vous la notez, vous la notez, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave pour le propos que je suis en train de tenir. Ici, donc, Dieu et Moïse, Dieu est en train de sceller l'alliance avec le peuple par l'intermédiaire de Moïse, et Dieu ordonne à Moïse, mets par écrit les paroles que je t'ai données, et en grec, c'est dogmatizein, c'est-à-dire mets par écrit d'une manière qui engage, scelle l'alliance en la mettant par écrit. Dogmatise-la, on te redirait aujourd'hui. Alors ça n'a pas tout à fait ce sens-là, mais voyez, décrète-la. Engage le peuple de cette manière-là. Et vous trouvez aussi un usage extrêmement fort dans le Nouveau Testament, après l'épisode qu'on va voir un peu plus loin, un épisode très important qui se tient dans le chapitre 15 du livre des Actes. Il s'agit d'une crise, j'y reviendrai un peu plus tard. Cette crise a provoqué une réunion à Jérusalem des autorités chrétiennes de la toute première église. Celles-ci ont pris une décision et en acte 16, Paul diffuse les décisions prises lors de cette assemblée de Jérusalem. Il s'agit de dogmas, c'est-à-dire de choses décrétées. Mais dans l'usage ecclésiastique, le mot dogme va connaître des sens assez divers. Et il faut attendre le 19e siècle, donc le texte que vous avez sous les yeux, pour avoir une définition contraignante, c'est-à-dire possédant un degré d'autorité maximal, puisque cette définition a été produite par le Concile Vatican I en 1870. C'est donc un extrait de du texte de Vatican I intitulé « Dei Filius ». Et je ne sais pas ce qui s'est passé là, bon, peu importe. Et donc voici ce texte. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition, et que l'Église propose à croire comme divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Le jugement solennel, c'est un pape qui promulgue un dogme de manière solennelle, ou bien c'est un concile qui le fait. Le magistère ordinaire et universel, c'est le consensus.
On peut poser des questions ?
Alors, plutôt à la fin, parce que vu le cahier des charges, voilà, vous les gardez à la fin. Ok ? Alors, en latin, vous avez un ablatif. C'est, qui est tout début là, on doit croire deux fois divine et catholique. En latin, c'est defide divina et catholica. Donc vous avez un ablatif de moyen qui est très important. C'est-à-dire que cet ablatif du document est à interpréter avec une réflexion théologique de très longue haleine, dont la première occurrence maîtrisée. Hein, la question que je vais aborder avait déjà été abordée auparavant, mais Augustin, au 5e siècle, est le premier à l'avoir explicité d'une manière maîtrisée, à savoir dans l'acte de foi, enfin dans la foi, il y a deux choses. Il y a le contenu de la foi, ce qui est dit, et il y a l'acte de foi, c'est-à-dire le fait d'y adhérer. Et ce sont deux choses qui ne sont pas tout à fait équivalentes. Okay. Et ici, l'ablatif, on doit croire de foi divine et catholique, indique l'acte de foi, la qualité de l'acte de foi, c'est-à-dire que le sujet est mobilisé. Donc il ne s'agit pas dans ce texte simplement d'un quelque chose qui tombe d'en haut et vous n'avez plus qu'à vous soumettre, il s'agit d'un texte qui invite à l'adhésion personnelle. au contenu promulgué. Hein. Vous avez une deuxième définition qui a été donnée plus tard au Concile Vatican II, qui est revenue sur cette question, et vous allez le voir de manière assez différente, c'est-à-dire d'une manière procédurale. C'est-à-dire que dans la définition de Vatican I, celle que je vous ai montrée en premier, vous avez la mise en avant de l'effet sur le sujet croyant. Là, il doit croire deux fois catholique, deux fois divine et catholique. Donc il est question de son adhésion à un contenu promulgué, alors que dans la définition donnée à Vatican II, vous avez une procédure. Voici, quand le pontife romain ou le corps des évêques en union avec lui porte une définition, ils le font conformément à la révélation elle-même, à laquelle tous doivent se tenir et se conformer, et qui, sous forme écrite ou par voie de tradition, est transmise intégralement grâce à la succession légitime des évêques, et avant tout par le soin du pontife romain lui-même, et qui est religieusement conservé et fidèlement exposé dans l'Église sous l'action prévenante de l'Esprit de vérité qui l'éclaire. Le pontife romain et les évêques, en raison de leur charge et de la gravité de la chose, s'appliquent avec un empressement zélé, par des moyens appropriés, à scruter soigneusement cette révélation et à l'énoncer adéquatement, mais ils ne reçoivent aucune nouvelle révélation publique comme faisant partie du dépôt divin de la foi. Donc ici, vous avez la description d'une procédure, quand le pontife romain ou bien le corps des évêques, de telle ou telle manière, porte une définition, etc. Et vous avez, dans l'expression de cette procédure, vous avez la mise en avant d'une source hiérarchique qui est la révélation. Et cette source définit un périmètre dans la procédure engagée, c'est-à-dire que définir un dogme, ça ne peut être qu'interpréter cette source et non pas la compléter. Alors ici, il y a un énoncé tendu parce que c'est un énoncé qui date de 1964, après des énoncés au XIXe siècle et au XXe siècle de dogmes relatifs à la Vierge Marie qui énoncent des choses que l'on ne trouve pas directement dans l'Écriture. Donc ici, vous avez une tension, c'est-à-dire la tension, c'est que veut dire interpréter l'Écriture. Par exemple, dire Marie et l'Assomption de la Vierge Marie, 1950. Marie a été glorifiée en son âme et en son corps immédiatement après sa vie sur la terre. Dire que c'est un dogme, c'est exact, c'est un dogme. Dire que c'est directement dans l'Écriture, personne ne le peut, même pas le catholique le plus pieux. Donc pour un catholique, il s'agit d'une interprétation de l'Écriture, mais il est évident, c'est un fait, que cette interprétation ne fait pas consensus dans l'ensemble des branches du christianisme. Donc ici est en jeu la question de savoir ce que signifie interpréter l'Écriture. Mais ce qui est très important, c'est que ni le pape ni les évêques ne sont conçus, ne sont compris absolument pas comme des sources de la révélation. Comme des organes interprétatifs de cette révélation, oui, mais comme des sources, non. Donc la représentation d'un pape comme une espèce de super-évêque capable, par une sorte de pouvoir mystérieux, de nous parler directement au nom de Dieu sur terre et de compléter la révélation est une représentation impie. Je ne dis pas que cette tentation n'habite pas le monde culturel catholique. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle est erronée. Voilà. Et le texte ici que nous avons sous les yeux le confirme. Ce n'est pas parce qu'on est capable de dire que c'est erroné qu'on est toujours capable de se défendre contre de telles erreurs. Toujours le Concile Vatican II, qui nous parle du dogme dans un autre document. Cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît tant par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent dans leur cœur, que par l'intelligence intérieure des réalités spirituelles qu'ils expérimentent, ainsi que par les prédications de ceux qui, avec la succession dans l'épiscopat, ont reçu un charisme certain de vérité, car l'Église, au cours des siècles, est sans cesse tendue vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'au moment où s'accompliront en elle les paroles de Dieu. Donc ici, vous avez la description précisément de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire de cette interprétation de la révélation comme habilitant l'Église a promulgué des dogmes, c'est-à-dire a donné des points d'arbitrage concernant cette interprétation. Voilà. Et vous avez la description de ceci en termes de progrès, de développement et même de tension vers un terme, vers une plénitude. Et ce qui est très intéressant, c'est que le sujet traversé par cette tension, par cette dynamique, c'est toute l'Église. Vous voyez ? On commence par les croyants. Vous voyez ? La perception des réalités s'accroît tant par la contemplation et l'étude des croyants. On commence par les croyants. Et vous avez à la fin la mention de l'épiscopat, mais l'épiscopat ne vient qu'en bout de chaîne pour sanctionner, dans le sens du verbe qui signifie arbitrer, pour recevoir et valider, ou au contraire, rejeter. Et vous avez la dernière définition qui vient du code de droit canonique. Alors l'abréviation latine de code de droit canonique, c'est CIC, ça n'a rien à voir avec la banque. Donc le code de droit canonique, c'est le code de droit dans le registre commun dans l'Église. Dans l'Église, il y a aussi des droits propres. Par exemple, la communauté monastique qui vous héberge aujourd'hui a un droit propre, en particulier la règle de Saint-Benoît, qui est le principal support de ce droit propre, mais ils ont aussi des statuts, des constitutions, un coutumier, etc. Ils ont un ensemble de sources locales pour un droit local, pour un droit propre. Dans l'Église, il y a aussi un droit commun, et le recueil, le code de ce droit commun, c'est le code de droit canonique. Et voici ce qu'il nous dit en son canon 749. Le pontife suprême, en vertu de sa charge, jouit de l'infaillibilité dans le magistère lorsque, comme pasteur et docteur suprême de tous les fidèles auxquels il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les mœurs. Ici donc vient en premier l'organe émetteur qu'est le pape. C'est un énoncé limitatif que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire qu'il y a une modalité selon laquelle le pape doit s'exprimer et il y a un périmètre, c'est-à-dire tout ce qui sort de la bouche d'un pape n'est pas un dogme. Même lorsqu'il parle de la foi et des mœurs. Okay. Il y a plusieurs exemples historiques récents où des papes ont tenu des propos sur la foi ou les mœurs, lesquels propos ont provoqué une certaine émotion, c'est-à-dire la question s'était posée de savoir s'ils avaient promulgué ou pas un dogme, et ils ont clarifié la chose en disant que non, parfois de manière anticipée. Par exemple, si vous avez lu l'introduction que Joseph Ratzinger, pape Benoît XVI, a écrite à sa trilogie sur Jésus, il dit bien qu'il est pape au moment où il écrit ce livre, mais qu'il ne s'exprime pas avec l'autorité qui est la sienne, avec son autorité de pape, et que donc les trois volumes sont offerts à la critique. D'accord ? Deuxième paragraphe, le collège des évêques jouit lui aussi de l'infaillibilité dans le magistère lorsque les évêques rassemblés en concile œcuménique exercent le magistère comme docteur et juge de la foi et des mœurs et déclarent pour l'Église tout entière qu'il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les mœurs, ou bien encore lorsque les évêques dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même pontife romain ce qui concerne la foi ou les mœurs, s'accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive. Donc là, vous avez maintenant le corps des évêques réuni soit en concile, soit s'exprimant de manière consensuelle à travers le monde. Et le troisième paragraphe essentiel, aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie, c'est-à-dire comme dogme, infailliblement définie, c'est-à-dire comme dogme, hein, que si cela est manifestement établi. C'est-à-dire que vous sentez une très grande réserve, il est hors de question de dogmatiser à tour de bras. Pour pouvoir considérer qu'une doctrine est de l'ordre du dogme, il faut prouver que cela est manifestement établi, or cela est excessivement difficile. Et parce que cela est excessivement difficile, nous ne pouvons pas, par principe, donner une liste des dogmes, nous ne l'avons pas. Il n'y a pas, dans l'Église catholique, de liste de dogmes. Et il y a même débat à l'intérieur de la communauté théologienne pour savoir ce qui est de l'ordre du dogme ou pas. Alors, pas sur tous les dogmes, sans exception. Il y a des dogmes qui sont vraiment de l'ordre d'un acquis. Par exemple, les huit premiers conciles, les conciles du premier millénaire, font largement figure d'acquis. Leur interprétation, elle, évolue. Mais, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Il y a débat actuellement pour savoir si Gaudium et Spes 22, Concile Vatican II, qui nous dit qu'on doit tenir que Dieu, de la manière qu'il sait, peut associer au salut le non-chrétien. Il y a débat dans la communauté théologique actuelle pour savoir s'il s'agit d'un dogme ou pas. Tout le monde n'est pas d'accord. Deuxième chose maintenant, deuxième point, l'archétype de la communauté apostolique. Donc j'en ai déjà dit un mot, je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il s'agit du chapitre 15 du livre des Actes. Ici, vous avez un événement qui est, comme le titre l'indique, l'archétype au moment de la communauté apostolique, c'est-à-dire au moment de l'Église primitive, l'archétype qui, auquel se réfère l'Église catholique lorsque elle vit un concile ou lorsqu'elle prend une décision dogmatique. Que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé ceci, que on est au tout début de l'ère chrétienne, hein, donc du temps des apôtres, ils sont encore vivants, et il se trouve que le christianisme commence déjà à avoir un très grand succès auprès des païens. Et ce succès du christianisme auprès des païens est attesté dans le Nouveau Testament lui-même. Et donc la question se pose, or les apôtres sont tous juifs, et ce sont des juifs pieux. Et donc la question se pose de savoir si, lorsque un païen, une païenne devient chrétien, il faut au préalable, nécessairement ou pas, le faire passer par le judaïsme. Concrètement, pour un homme qui demande le baptême, faut-il au préalable le circoncire ? Et un pagano-chrétien, c'est-à-dire un chrétien d'origine païenne, est-il tenu d'observer les règles alimentaires juives, règles alimentaires auxquelles les judéo-chrétiens sont restés relativement attachés ? Il y a débat à l'intérieur même du livre des Actes sur les règles alimentaires juives. Par exemple, l'apôtre Pierre a une attitude, Paul le lui reprochera, une attitude ambivalente par rapport à ça. Selon les contextes, nous dit Paul, Pierre a publiquement maintenu pour lui-même les règles juives alimentaires, alors qu'à d'autres occasions, il s'en est affranchi. Donc il y a ici une hésitation du côté des judéo-chrétiens pour eux-mêmes, et surtout pour les pagano-chrétiens qui intègrent la communauté, que faire ? Faut-il, avant d'être chrétien, faut-il nécessairement être d'abord devenu juif ? Sachant qu'à l'époque de Jésus, le prosélytisme juif existe. Hein. Il est possible beaucoup plus facilement à l'époque de Jésus de se convertir au judaïsme qu'aujourd'hui, parce que le judaïsme a évolué sur cette question. Donc à l'époque de l'Église primitive, il y a des missionnaires juifs, il y a un prosélytisme juif, et une conversion au judaïsme est possible. Il va donc y avoir réunion des autorités reconnues, c'est-à-dire des apôtres, à Jérusalem, et ils vont décider de ne pas imposer aux pagano-chrétiens de passer d'abord par le judaïsme. Et le texte s'exprime, cette décision est exprimée comme jouissant d'une autorité venant de Dieu. Ils revendiquent d'avoir pour eux l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et nous décrétons que. Et Paul, le chapitre suivant en acte 16, va diffuser cette décision en utilisant le mot dogma. Et donc ici, vous avez la source, le noyau, le germe de ce qui se vit dans le développement dogmatique au sein de l'Église catholique, mais aussi au sein des Églises orientales. Elles sont très proches de nous ici. C'est-à-dire, du côté des orthodoxes, ici, c'est la même chose. Vous avez le noyau, la source de ce que aussi bien les catholiques que les orthodoxes perçoivent, vivent en termes de développement du dogme, c'est-à-dire l'Église est habilitée tout entière, mais en particulier en certains de ses organes que sont le pape et les évêques en communion avec lui, l'Église est habilitée à interpréter ce que Dieu attend de nous à partir de la révélation et à l'interpréter d'une manière contraignante. Donc vous avez bien vu qu'ici, il s'agit non pas simplement d'interpréter le texte, il s'agit d'interpréter ce que, à partir du texte, sachant qu'au moment d'acte 15 et d'acte 16, on a très peu de textes, hein, l'Évangile est en cours de rédaction. Voilà. Mais on a l'Ancien Testament, on a quelques recueils probablement qui circulent sur les faits et les dits de Jésus, mais la question ici n'est pas seulement d'interpréter les textes, la lettre du texte, mais d'interpréter ce que, à partir des textes, c'est-à-dire à partir de la posture dans laquelle ces textes nous placent vis-à-vis de Dieu, d'interpréter ce qu'il convient de faire, de vivre. Donc ici, l'interprétation est comprise avec ce sens très large. Vous voyez, il ne s'agit pas d'arbitrer entre des exégètes. Le travail des exégètes est inclus dans ce travail, hein, mais il ne s'agit pas d'abord de s'arrêter à un niveau exégétique, Il s'agit de comprendre comment, à partir de la révélation, encore une fois, et de la posture en laquelle cette révélation nous met en face de Dieu, il convient de vivre et d'agir, de croire, de vivre et d'agir. D'où le binôme que vous avez entendu sans cesse, foi et mœurs, foi et mœurs, foi et mœurs, dans les définitions précédentes. Vous vous rappelez ? Bien. Le 3. Ici, il s'agit de... Donc, je vous ai d'abord défini, montré des définitions officielles de ce que l'on appelle dogme. Je vous en ai montré 3, 3,5, parce que Lumen Gentium, ce n'est pas exactement une définition du dogme, même si ça y revient. Je vous ai montré en tout cas plusieurs textes qui mentionnent le dogme et qui en parlent avec un très haut niveau d'autorité. Et je vous ai montré ensuite, tout de suite, c'était le point numéro 2, je vous ai montré la source qui est à la fois une source scripturaire, puisque ça se trouve dans le Nouveau Testament, acte 15, acte 16, mais c'est aussi une source événementielle. C'est-à-dire c'est un événement qui nous est relaté en acte 15, en acte 16. Okay. Et ce qu'on appelle l'activité dogmatique se vit comme la continuation, comme dans la continuité de cet événement. Ça va ? Donc ça, c'est un premier point, ce point 2 était un premier point d'élucidation en ce qu'il mettait en avant une source. Maintenant, il y a un deuxième point d'élucidation, qui est le point numéro 3. Il s'agit de comprendre ce qu'est la révélation pour nous, et qui permet, qui invite même à cette activité dogmatique. Alors, pour faire bref, je vous ai mis le début de l'évangile selon saint Marc. Donc, c'est chapitre 1, verset 1, le tout début. Vous avez commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et vous avez le mot évangile dans ce titre. En réalité, ce premier verset, c'est un incipit, c'est-à-dire c'est un début qui donne le titre. Vous avez le mot évangile et vous vous dites, bah, c'est simple, l'évangile, c'est tout ce qui suit. On vous dit commencement de quoi ? De l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile ? Bah, c'est la suite. Il suffit, et là, la définition est donnée, si on veut. L'évangile, c'est le nom. Évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Hein. Et ici, ça devient nom propre. Donc, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Hein. Ce n'est pas le dernier score du PSG. C'est une bonne nouvelle, c'est un quasi-nom propre ici. Et donc, on vous dit, bah, la bonne nouvelle avec un B majuscule et un majuscule, c'est bah, ce qui suit. C'est à partir du verset 2. Okay ? Sauf que ça ne va pas parce que quand vous lisez un peu plus loin, donc toujours dans ce même chapitre 1, les versets 14 à 15, ce que je vous les ai mis. Non, je ne les ai pas mis bêtement, mais c'est très vite lu. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée proclamant l'évangile de Dieu. Ah ! Alors là, le mot glisse. Évangile, ça ne va pas être ce qui suit à partir du verset 2, ça va être ce qui va sortir de la bouche de Jésus. Alors, on ouvre les micros et on tend l'oreille. Et voici ce que dit Jésus. Le temps, donc, il y a des guillemets. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Waouh ! Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une élaboration du texte qui fait boucler le mot évangile. Et qui fait boucler le mot évangile autour d'un événement, qui est la prise de parole de Jésus, et même autour de sa personne. Parce que ce que dit Jésus ici n'est pas particulièrement original, hein, si ce n'est que c'est maintenant. Il n'y a pas de contenu singulier à part le c'est maintenant. Repentez-vous, le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. À part la finale, croyez à l'évangile, Isaïe aurait pu dire ça. D'accord ? Il n'y a pas d'informations nouvelles, si ce n'est croyez à l'évangile, avec évangile qui boucle sur lui en fait. Ce qui est singulier, ce n'est pas le contenu d'abord, mais c'est lui qui, en tant que personne, prenant la parole. C'est-à-dire lui, en tant qu'il est en sa personne, un événement de révélation. Et l'évangile, ça devient ça. Pas seulement un texte, mais Jésus lui-même, en tant qu'événement de révélation. C'est le sens du mot évangile sous la plume de Paul dans les Épîtres. Quand Paul dit l'évangile que je vous ai annoncé, etc., c'est cela. Parce que quand Paul parle, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'existent pas encore. Au mieux, il y a les premières versions de Matthieu et c'est tout. Vous m'avez suivi ou pas ? Donc il y a une polysémie du mot évangile. Aujourd'hui, évangile, de la manière la plus simple et la plus prosaïque, c'est le recueil des quatre textes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, plus les épîtres, plus les actes des apôtres, plus les épîtres, plus le livre de l'Apocalypse. Donc c'est un recueil de textes. Mais on voit bien qu'il y a une polysémie beaucoup plus large que cela. Et l'Évangile, c'est aussi, et c'est même surtout, et c'est même d'abord, l'événement de révélation qu'est Jésus en sa personne. Or, Jésus n'a rien écrit. On a écrit sur lui. Ça signifie que le texte du Nouveau Testament se présente comme tout entier nous tournant vers un hors-texte. Et ça, c'est la signification du mot déictique. Déictique, c'est indiquer. C'est la même racine que désigner, que indiquer, que index. Donc déictique, c'est montrer avec le doigt. Ok ? Eh bien, le Nouveau Testament est très profondément imprégné d'un caractère déictique. Voilà, Jésus lui-même n'a rien écrit. Le Nouveau Testament, ce sont des choses écrites sur lui. Donc, on nous désigne la source, c'est de lui qu'on parle, mais on ne fait pas que cela. On nous désigne non seulement celui dont on parle, ce Jésus qui a vécu ceci et qui a dit cela, mais on nous le désigne comme étant présent maintenant. Parce que ressuscité. Et donc vous avez une double dimension déictique du texte. C'est-à-dire il indique vers un arrière ce qui s'est passé, mais il indique aussi vers un maintenant, le même maintenant que Jésus. Il est présent. Ok ? Et la nature de ce texte qu'est le Nouveau Testament ne s'éclaircit, ne s'élucide, ne s'accomplit que dans le cadre de la liturgie. C'est-à-dire à la liturgie, on proclame ce texte, c'est-à-dire on proclame l'avant, l'arrière, l'expérience normative des apôtres, l'expérience de Jésus qu'ils ont faite, l'expérience normative, pour nous rendre à même, nous rendre capables, à notre tour, de faire cette même expérience maintenant, de Jésus présent parmi nous. Donc vous avez un hors-texte qui est désigné. Et cet hors-texte qu'est le Nouveau Testament met la communauté qui promeut ce texte, hein, l'Église n'est pas née de l'Évangile, c'est le contraire. L'Évangile a été rédigé par l'Église, et ensuite l'Évangile devient la norme de l'Église, mais l'Évangile est une production de l'Église. Et la nature particulière de ce texte met l'Église, surtout dans le cadre de la liturgie, dans une position particulière, c'est-à-dire dans une position non seulement réceptrice, mais où il faut répondre. C'est une expérience à vivre vis-à-vis de laquelle vous avez à vous déterminer. Et c'est particulièrement visible après la lecture de l'Évangile, où le livre est élevé, et celui qui a proclamé l'Évangile, on l'a vu tout à l'heure, hein, le diacre a proclamé l'Évangile, il l'a chanté même, et puis ensuite il a levé le livre, il a dit « Acclamons la parole de Dieu ». Et l'assemblée a répondu « Louange à toi Seigneur Jésus ». D'accord ? Dans cet « acclamant la parole de Dieu », là je suis déjà dans le point 2, dans le 3-2, dans cet « acclamant la parole de Dieu », vous avez la réponse de la communauté vis-à-vis de ce texte, c'est-à-dire la perception de cet hors-texte. C'est une parole de Dieu qui ne nous renvoie pas seulement vers l'arrière, mais qui nous renvoie vers un maintenant, vers une actualité. Et c'est l'Église qui est en position de le dire, ça. C'est-à-dire que dans cet acclamant liturgique, dans cette acclamation liturgique de ce texte comme parole de Dieu, non seulement parole dite autrefois, mais parole maintenant, vous avez déjà ce que nous on appelle le principe dogmatique, qui est un principe porté par toute l'Église, et pas simplement par quelques-uns qui portent un chapeau pointu. Et donc ici, ça nous fait entrer dans le caractère dialogique de la révélation judéo-chrétienne, est comprise non pas comme un recueil de formules à croire ou de vérités indépendantes les unes des autres, autonomes. C'est-à-dire qu'on n'est pas renvoyé au texte dans son littéralisme, c'est-à-dire dans sa formule, on est renvoyé au texte en tant qu'il inclut, il provoque, il engendre ce qu'on appelle dans notre jargon un rapport religieux, c'est-à-dire une nouvelle posture de nous en face de Dieu parce que Dieu est venu à nous, et cette nouvelle posture en laquelle nous sommes de par cette révélation. Donc la révélation, vous voyez, c'est actuel. Hein. Il y a une actualité de cette révélation. Et donc dans cette posture engendrée de la révélation, par la révélation, dans cette nouvelle posture de nous par rapport à Dieu, suscité par Dieu lui-même, nous sommes mis en demeure de répondre. Acclamons la parole de Dieu. Ceci la parole de Dieu. Amen. Et ici, il y a déjà un principe dogmatique, c'est-à-dire que cette réponse est infaillible. Pourquoi ? Parce qu'elle est portée par ce dialogue voulu par Dieu lui-même. Voilà. Dieu ne nous adresse pas une lettre de l'extérieur seulement, et puis cette lettre nous parvient, et puis vous avez des décrypteurs qui décodent cette lettre, et puis après vous avez des journalistes qui diffusent l'information de la traduction de cette lettre, et puis après vous vous débrouillez comme vous pouvez avec, mais la révélation est parce que le texte est inspiré, sa réception l'est aussi. C'est-à-dire que non seulement ce texte nous parvient par les oreilles et par les yeux, mais il nous parvient aussi par le travail de l'esprit dans le cœur. Et la même chose pour l'écrivain sacré. C'est-à-dire, il a été interpellé dans son histoire propre, par Dieu, à l'extérieur, dans les événements qui sont les siens, et à l'intérieur de son cœur. Donc on ne peut pas dissocier nature de la révélation d'un côté avec la nature de l'inspiration, et de l'autre côté, nature de la réception de cette révélation, qui elle aussi est inspirée, au point justement qu'il puisse y avoir des dogmes. C'est-à-dire une réception de cette révélation qui elle aussi, cette réception est contraignante. La conclusion de ce point, j'ai fini avec le 3.2, c'est un extrait du catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 108, qui dit quelque chose qui est très important. La foi chrétienne, qui synthétise ce que je viens de vous dire, hein, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre, le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un verbe écrit et muet, mais du verbe incarné et vivant. Et on n'est pas tourné vers le livre, on est tourné vers le livre en ce sens que ce livre est porteur d'une expérience normative qui nous permet de reconnaître le même Christ maintenant. Alors ici, évidemment, vous devinez, il faut prendre à peine un peu de recul pour deviner qu'ici, on retrouve, ce qu'on avait déjà croisé au début de notre parcours, on retrouve la question de l'interprétation. Pardon ?
Et de la parole de l'Église.
Eh oui. C'est-à-dire qu'il est évident que cette parole de Dieu, à partir du moment où on vous dit ce que je viens de vous dire, où on lit ça, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre, il est évident que vous avez des marges de manœuvre par rapport à la littéralité du livre même. Puisque ce à quoi vous êtes renvoyé, ce n'est pas le livre en tant que tel, mais c'est à l'expérience que engendre ce livre, ou plutôt l'acte de révélation de Dieu dans ce livre et le témoin. Et donc vous avez une marge de manœuvre. Quelle est-elle cette marge de manœuvre ? Alors ça, on n'en finit pas de travailler. Et de dire, alors il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'étapes importantes, Vincent de Lérins à une extrémité, le cardinal Newman à une autre extrémité, un document de la Commission théologique internationale il n'y a pas très longtemps, on ne cesse de se demander quelles sont nos marges de manœuvre. Actuellement, dans l'Église catholique par exemple, il y a une situation de crise avec l'encyclique Amoris Laetitia du pape François. La crise porte précisément, si vous avez envie, on y reviendra au moment des questions, mais actuellement on est en plein dedans, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible... La question porte sur le point qui fâche en ce moment, c'est la possibilité de donner la communion, l'Eucharistie, la communion, le pain et le vin consacrés à des divorcés mariés. Et la question ici qui est en jeu, c'est de savoir si, jusqu'à Maurice Laetitia, la réponse était non. Théoriquement, hein, parce que dans les faits, il y avait une très grande souplesse. Mais au moins, la théorie était rigide. Ok ? Et la question actuellement se pose de savoir si ce qui, jusqu'alors, du point de vue de la théorie, était rigide, était simplement sur un registre de discipline ou bien sur un registre de doctrine. Et là, je vous assure que le débat est costaud. Hein, voyez ? C'est-à-dire la question ici est de savoir quelles sont les marges d'interprétation. Donc ça n'est jamais une question résolue une fois pour toutes. Hein, quelles sont les marges d'interprétation ? D'où l'aspect aussi fortement consensuel affirmé par les textes que je vous ai montrés qui définissent le dogme. C'est-à-dire que le pape le fait, mais il doit, en tant qu'il est membre du collège épiscopal, donc on ne peut pas avoir tout d'un coup un pape qui nous donne sa lubie et qui en fait un dogme. Par exemple, on a un exemple très, très historique, très récent. Le pape Jean-Paul II, à titre personnel, estimait que, ça c'est un peu technique, mais pour la Vierge Marie toujours, que le dogme de l'Assomption, ça c'est un dogme, était parfaitement compatible avec la version orthodoxe qui est la Dormition, laquelle affirme que la Vierge Marie est morte. Donc le pape Jean-Paul II s'est exprimé à titre personnel. Il a dit « à titre personnel, j'estime que la Vierge Marie est morte ». Et que la version des orthodoxes est la mienne. Voilà. Il a dit « Je n'engage pas la foi de l'Église », parce qu'il se sentait sur cette question isolé. Il ne sentait pas le consensus. Okay, voilà. Le point 4. Toujours dans la... Donc on creuse ce point, le caractère dialogique de la révélation. Okay, je voulais montrer le caractère dialogique de la révélation, je voulais montrer de deux manières. Je l'ai montré avec la définition de l'évangile induite par l'évangile lui-même, qui en fait ne définit jamais mieux l'évangile que en faisant en sorte que ce mot cerne, tourne, gravite autour de Jésus lui-même. Il est l'évangile. Ok ? Et la deuxième chose que je vous ai montrée, c'est ce que cela provoque comme effet. Et qu'est-ce que cela provoque comme effet ? Ça engendre une communauté qui est en situation d'avoir à répondre « Ceci est la parole de Dieu ». Et c'est déjà le principe dogmatique. Donc ici, je vous ai déjà montré quelque chose de la nature de la révélation, mais très centré sur le Nouveau Testament et sur sa mise en œuvre liturgique. Ça va ? Je voudrais vous montrer la même chose en allant un peu plus loin, c'est-à-dire en regardant le rapport Ancien Testament et Nouveau Testament. Ça va ? Alors, il y aura deux points. Le premier point, il y a ce qu'on appelle le développement midrashique. Alors c'est un mot compliqué, le Midrash, c'est une interprétation de l'Ancien Testament, une interprétation rabbinique de l'Ancien Testament, Midrash au singulier, Midrashim au pluriel. Il se trouve que les rabbins eux-mêmes ont codifié les méthodes herméneutiques pour interpréter. Donc il y a des règles midrashiques, okay ? Lesquelles règles midrashiques ? Donne un véritable déploiement à cette révélation. C'est-à-dire que le Midrash ou les Midrashim ne vous renvoient pas à la lettre seule, mais c'est une opération faite sur le texte pour le faire parler au-delà de sa lettre, dans le Midrash. Okay ? Et vous entendez bien dans la manière que j'ai eu de parler qu'il y a une sorte de courbe, voyez. C'est-à-dire qu'on commente le texte pour le faire parler au-delà de lui-même. Mais donc on ne le quitte jamais, voyez. Mais d'une certaine manière, on lui donne un déploiement. Donc le Midrash ne cherche pas à quitter la lettre du texte, mais il n'est pas prisonnier de la lettre. Ok ? Il y a un aspect redondant, c'est-à-dire que je pars du texte et j'y reviens, mais dans ce mouvement de circulaire, il y a un gain, qui est précisément le gain, c'est quoi ? C'est l'interprétation. Ça va ? Eh bien, il se trouve que l'Ancien Testament s'est développé de cette manière-là. Par exemple, vous avez deux récits de la création dans le livre de la Genèse, Genèse 1, Genèse 2, et ce ne sont pas les mêmes. Okay ? C'est-à-dire qu'on répète le récit. Autrement, il y a un gain. Vous avez le livre de l'Exode qui vous raconte la libération d'Égypte, c'est repris dans le livre du Deutéronome et dans le livre du Lévitique. Et autrement, on y revient. Okay ? Dans Exode 14, vous avez deux récits entretissés du passage de la mer, dans le même chapitre, où la mer forme des murailles à gauche et à droite, et puis il y a aussi un vent qui a soufflé et on passe à gué. Et c'est dans le même texte, c'est entretissé. C'est-à-dire qu'on répète, on collationne des traditions différentes, mais ces traditions différentes sont elles-mêmes un processus de redondance et elles entrent en dialogue de manière redondante. Vous voyez, on ne cesse pas de partir du texte et d'y revenir avec un gain interprétatif à chaque fois. Ça va ? Et la clé qui noue les différentes méthodes midrashiques qui permettent ce déploiement. Donc on est en train de vous montrer que la Bible elle-même, en réalité, est une sorte de déploiement midrashique. Et déploiement midrashique à partir, finalement, de quel texte source ? Quelle est la base ? La base, c'est toujours la même. C'est-à-dire, Dieu vient à l'homme et lui propose une alliance, c'est-à-dire l'invite à répondre. Et donc, cette répétition, c'est toujours rappeler ce que Dieu a fait pour comprendre ce qu'il fait maintenant. Sachant que ce qu'il fait maintenant est porteur de promesses. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, il le fait encore, il le fera toujours et encore mieux. Alors, il y a d'autres exemples. Je vous ai montré, il y a deux livres des rois et deux livres des chroniques. Alors, il y en a deux, mais en fait, ils suivent une chronologie. Il y a la première partie de la chronologie en premier livre des rois, deuxième partie de la chronologie en deuxième livre des rois. Sauf que le livre des chroniques, le double livre des chroniques reprend cette chronologie avec des différences importantes. Par exemple, le premier livre des rois vous montre les ombres du règne de Salomon, alors que le livre des chroniques vous montre seulement ce qui va bien. Et donc, il y a plusieurs manifestation de cette redondance dont je vous parle. Il se trouve que cette redondance dans l'Ancien Testament pointe vers un extérieur elle aussi, vers un hors-texte, et c'est Deutéronome 18:15, « Dieu vous suscitera, dit Moïse, un prophète comme moi. » Voilà. C'est-à-dire que ici, on aurait la clôture du phénomène, c'est-à-dire qu'ici, on aurait non plus la possibilité de continuer à rédiger le texte sacré, mais la clôture du texte sacré dans l'attente non pas d'un nouveau texte, mais d'un quelqu'un. Et il se trouve que ce développement midrashique, c'est exactement le même dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas un seul texte de l'Évangile, vous en avez quatre, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui reprennent aussi de cette même manière. Avec parfois des différences considérables. Par exemple, pour Matthieu, Marc et Luc, l'épisode de la purification du temple très célèbre où Jésus chasse les marchands du temple est un épisode terminal qui clôture sa vie publique, et c'est dans la narration du texte, c'est probablement ce qui explique sa mise à mort en grande partie. Alors que dans Jean, c'est un épisode inaugural qui n'explique pas, qui n'est pas la cause de la mise à mort de Jésus. C'est plutôt ici, en Jean, l'épisode des marchands du temple chassés par Jésus, la manifestation par Jésus que dans le temple, il est chez lui. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas du tout pareil. Chez Jean, c'est au début. Chez Matthieu, Marc, Luc, c'est à la fin. On voit bien que les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est dans la trame narrative, ça ne joue pas le même rôle. Et donc, dans la signification profonde, ça ne joue pas le même rôle non plus. Et parce qu'on est dans le même processus que celui que je vous ai fait observer dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire celui d'une redondance, d'une répétition interprétative qui ne quitte pas la lettre, mais qui n'en est pas prisonnière. Voilà. Et puis vous avez aussi à observer ceci, ce qu'on appelle les lignes d'accomplissement. Donc le Nouveau Testament ne se contente pas de continuer ce développement midrashique que vous avez dans l'Ancien Testament. Je reviens un tout petit peu en arrière. Deutéronome 18:15, un prophète comme moi, c'est ça qui a fait que les évangélistes se sont sentis habilités à produire un texte sacré. Hein. C'est que précisément le prophète comme lui était venu, c'était Jésus. Ok ? Bon, je reviens, je continue mon propos. Donc on ne s'est pas contenté avec l'avènement du prophète annoncé par Moïse, un prophète comme lui, on ne s'est pas contenté de réouvrir l'opération de rédaction du texte sacré. Donc ça n'est pas simplement un redémarrage du développement midrashique qu'on a vu à l'œuvre dans l'Ancien Testament, ça va plus loin. Il y a aussi ce qu'on appelle les lignes d'accomplissement, c'est-à-dire que le Nouveau Testament se construit en saisissant dans l'Ancien Testament un certain nombre de catégories ou de personnages ou de situations types que l'on approche de Jésus pour dire Jésus dans l'explosion de ces mêmes catégories. Alors, par exemple, la catégorie du sacrifice. Il y a le sacrifice dans le temple de Salomon qui est perpétuel. Et puis il y a le sacrifice du Christ qui est unique, nous dit l'Épître aux Hébreux, et du coup, qui change la catégorie du sacrifice à un tel point que le sacrifice des animaux, le sacrifice cultuel, est obsolète. Okay, donc là, ici, on voit bien Pour annoncer cela, on prend la catégorie du sacrifice original et au contact de Jésus, elle explose à tel point que le sacrifice d'animaux dans le temple devient obsolète. Ok ? Ici, je vous ai montré cette ligne d'accomplissement, non pas avec une catégorie, celle du sacrifice, mais avec un personnage type, Abraham. Donc Genèse 12, Dieu dit à Abraham, il n'a pas encore son nouveau nom, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi se béniront tous les clans de la terre. » Et ça donne dans l'Épître aux Galates, le Christ, donc le nouvel Abraham en encore mieux, nous a rachetés de cette malédiction de la loi devenue lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque pend au gibet, afin qu'aux païens passent dans le Christ Jésus la bénédiction d'Abraham, et que par la foi nous recevions l'esprit de la promesse. » Vous voyez, la bénédiction que vous avez en Genèse 12, qui est très mystérieuse parce qu'elle est déposée en Abraham pour tous les peuples, alors même que dans le même appel, Abraham reçoit la révélation de ce qu'il aura une descendance, c'est-à-dire ici il devient le fondateur du peuple juif, du peuple élu. Donc vous avez une tension. C'est-à-dire que dans le même passage, on dit à Abraham, en toi réside une bénédiction pour tous. Dans le même passage, tu vas être l'aïeul, le fondateur du peuple élu. Okay. Et ici, en Galates 3, cette tension est résolue. C'est-à-dire cette bénédiction déposée en Abraham, par le Christ, se diffuse, devient opératoire pour tous. Okay. Donc ici, vous avez la mobilisation d'un personnage typique, approché de Jésus pour dire le mystère du Christ dans l'explosion de la catégorie du personnage convoqué. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je n'ai rien fait d'autre que de vous montrer que ce rapport, cette qualité déictique hors texte propre au Nouveau Testament a un écho profond dans l'Ancien Testament en tant que tel, dans son propre développement. Voilà. Et un écho profond, encore plus profond, dans la relation entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une structure très vaste. Si je résume à grands traits, vous avez une structure, à partir de la personne même du Christ, vous avez une structure liturgique, institutionnelle et une structure rédactionnelle propre à l'Ancien Testament et propre au rapport ancien et nouveau. Et qu'est-ce qu'on voit à l'œuvre à chaque fois? On voit à l'œuvre à chaque fois des individus qui, sous l'effet de l'inspiration, sont à même de reconnaître toujours cette même chose, ce que Dieu a fait, il le fait encore et il le fera. Et cette répétition n'est pas répétition stérile, à chaque fois il y a un gain. Alors pour les chrétiens, le point culminant de ce que je vous dis là, c'est Pâques. Voilà. Donc dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, Dieu libère le peuple de l'esclavage d'Égypte en faisant passer le peuple à travers la mer. Et bien le Christ, c'est celui qui sauve l'humanité de l'esclavage, de la mort, du péché et du diable, en faisant passer le peuple à travers les eaux du baptême, c'est-à-dire à travers sa propre mort à lui. Il ne s'agit pas de sortir de la terre d'Égypte pour aller vers la terre promise, il s'agit de passer de ce monde en Dieu, en faisant, dans notre passage, passer tout ce monde en Dieu. Donc, ici, vous avez la répétition de la structure, mais avec un gain considérable. Donc, c'est plus Pharaon, c'est la mort et le péché et Satan. Ce n'est plus la terre promise, c'est Dieu lui-même. Et ce n'est plus le peuple élu seul, c'est toute l'humanité. Bien, et je finis, je suis un peu en retard, mais je finis avec le développement du dogme. Donc je vous l'ai dit, la question de savoir quelles sont nos marges de manœuvre dans la démarche interprétative est une question qui à tout jamais sera sur l'établi de l'atelier. C'est une question sans cesse travaillée et qui ne peut pas être réglée une fois pour toutes. Même s'il y a un certain nombre de réflexions qui constituent déjà un acquis considérable. Hein. Alors peut-être que la dernière contribution en date la plus significative, c'est celle du cardinal Newman, qui a énoncé un certain nombre de critères Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous lire ça parce que ça, c'est vraiment très, très développé. Il y en a une dizaine. Enfin, c'est très, très vaste. Je vais donc juste vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, vous avez sous les yeux le numéro 22 de Gaudium et Spes, que j'ai déjà évoqué au début. Je vous ai dit, il y a débat pour savoir si ce paragraphe est un dogme ou pas. Voici ce qu'il dit. En effet, donc c'est le Concile Vatican II, ça. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, donc y compris les non-chrétiens, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal, c'est-à-dire la possibilité d'être sauvé. D'accord ? Ça, c'est un énoncé nouveau. Jamais un document de l'Église n'avait parlé à ce niveau-là d'autorité de cette manière-là, même si vous avez beaucoup de pierres d'attente avant concernant le salut des non-chrétiens, et jamais vous n'aviez quelque chose d'aussi clair. Ça s'enracine dans 1 Timothée 2,4, hein, dans Romains 8,22 qui est cité par le texte, le Christ est mort pour tous, et dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous avez ici ce que Newman appellerait si tant est que Gaudium et Spes 22 soit un dogme, ce que personnellement je pense, vous auriez ici le développement d'un type. C'est ce que Newman appelle le développement d'un type, c'est-à-dire vous avez la source, alors là 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, Romains 8,32, le Christ est mort pour tous, et là vous avez le type originel, et l'énoncé de Gaudium et Spes 22 n'en est que le développement. Et puisque Dieu veut que tous soient sauvés, et que le Christ est mort pour tous, et que c'est sa passion-résurrection qui sauve, eh bien, il faut en conclure que Dieu, d'une manière qu'il connaît, peut associer tous les hommes à ce mystère de salut. Et vous avez le développement d'un type ici. D'autres exemples de développement du dogme. Vous avez aussi des opérations de déduction. Par exemple, péché originel.
Il y a quand même quelque chose qui change entre Timothée et la reprise. C'est que dans Timothée, il veut que tous les hommes soient sauvés, et dans l'autre, ils ont la possibilité.
Ouais, tout à fait.
Il y a quand même la notion d'acte de foi qui change directement, là, je pense.
Gagné. Il y a la prise en considération du destinataire. Tout à fait. Un autre exemple de développement du dogme. Le péché originel, alors attention, c'est un énoncé qui n'est pas premier, qui n'est pas second, qui pourrait peut-être être troisième, mais le cœur de l'affirmation chrétienne, ce n'est pas le péché originel. C'est le Christ sauveur. Et précisément, le péché originel est un énoncé déduit du premier. À partir du moment où on affirme que le Christ est l'unique sauveur et l'universel sauveur de toute l'humanité, quel que soit le moment de l'histoire considéré, et de l'individu, quel que soit le stade du développement de l'individu, à partir du moment où vous dites ça, d'une part, et à partir du moment où, à partir de cet énoncé, vous posez la question de savoir de quoi nous sauve-t-il, voilà, sans quitter de vue, sans perdre de vue la première partie, c'est-à-dire de quoi sauve-t-il l'humanité, quelle que soit l'époque de l'histoire considérée, et l'individu, quel que soit le stade de son développement considéré. Dès que vous avez posé cette question, vous aboutissez directement à l'énoncé péché originel. C'est-à-dire qu'il nous sauve d'une situation de non-salut. C'est-à-dire que sans lui, nous sommes dans une situation de non-salut, quel que soit le moment de l'histoire considérée, et quel que soit le stade considéré du développement de l'individu. Après, qu'est-ce que c'est qu'une situation de non-salut ? Même nous, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on travaille. Vous voyez ? On n'a pas. C'est très, très, très mystérieux. Ici, mais ce n'est pas une conférence sur le péché originel. Si ça vous intéresse, je fais actuellement le MOOC des petites pubs, le MOOC des Bernardins actuellement sur le péché originel. Il est en cours, là. Voilà. Donc, mais ça couvre 12 semaines. Donc, je ne vais pas vous tenir le crachat sur le péché originel aujourd'hui. Mais ici, c'est intéressant parce qu'on voit un développement dogmatique par déduction. OK ? Un autre type de développement dogmatique par évolution interprétative. Et il y a plein d'autres formes d'évolution du dogme. Je n'en donne que quelques exemples. Un autre type d'évolution du dogme par évolution interprétative, le fameux adage « hors de l'Église, point de salut », un adage qui fâche, qui a été interprété jusqu'à il y a peu d'une manière qui le référait au baptême. C'est-à-dire « hors de l'Église, point de salut », c'était entendu, c'était interprété en fonction du baptême. Ça voulait dire « sans le baptême, pas de salut ». D'accord ? C'est interprété dans cette direction-là, de cette manière-là. Mais il y a eu un progrès considérable de l'ecclésiologie, c'est-à-dire de la théologie de l'Église, au XIXe siècle et au XXe siècle, considérable, considérable. Et pas seulement chez les catholiques, chez tout le monde, chez les catholiques, chez les protestants, chez les orthodoxes, tout le monde, toute confession chrétienne confondue, il y a eu un énorme progrès, un énorme travail théologique sur le mystère de l'Église, un énorme travail ecclésiologique, extrêmement fécond, qui a abouti à une sorte de renversement des choses, c'est-à-dire que, alors qu'avant ce travail-là, l'Église, ça signifiait la communauté des baptisés, aujourd'hui, Église, ça signifie la communauté des sauvés en Christ. C'est-à-dire qu'on ne réfère plus le fait... d'abord, on ne définit plus les périmètres de l'Église en fonction du sacrement. On définit les périmètres de l'Église en fonction de ce que seul Dieu connaît, c'est-à-dire en fonction du fait d'être sauvé. Et du coup, l'adage reste vrai, simplement il a perdu son caractère exclusif. Il ne vous dit plus « sans le baptême, vous êtes foutu », il vous dit « à partir du moment où vous êtes sauvé, vous êtes d'Église, même si vous n'êtes pas baptisé, si vous ne le savez pas ». Et donc il est repris dans le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui, mais alors avec un sens très différent. Et donc ici, vous avez une évolution interprétative, dogmatique. C'est-à-dire, vous voyez bien aussi que les choses forment un tout, hein. Vous avez un tout organique, c'est-à-dire qu'un progrès dans un secteur de la dogmatique, dans l'ecclésiologie, a entraîné une évolution considérable dans un autre secteur. Ici, on est en sotériologie, hein, le salut, c'est la théologie du salut. Et donc, le progrès dans la théologie de l'Église, en ecclésiologie, a entraîné un progrès par ricochet en sotériologie, et donc une réinterprétation très radicale, hein. Donc ça reste vrai, vous le trouvez hein, toujours aujourd'hui, on continue de dire hors de l'Église, point de salut, c'est écrit noir sur blanc dans le catéchisme des Églises catholiques. Est-ce que je vous ai mis la référence? Non, je ne l'ai pas mis, c'est le numéro, je crois que j'ai noté quelque part, c'est le numéro, non je n'ai pas noté bêtement. Si, c'est le numéro 846. Donc c'est toujours écrit dans le catéchisme des Églises catholiques, mais alors pas du tout avec le sens exclusiviste référé au baptême que cela avait avant.
846.
Voilà, j'ai fini. Excusez-moi, j'ai un petit peu débordé. À vous la parole.